Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale et associative. Eh bien, nous sommes le mercredi 20 novembre et aujourd'hui, Aline, tu reçois Claire Lefort du SIAP.
Tout à fait. Bonjour Claire.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par nous présenter le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine ?
Avec plaisir. Alors, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, c'est un espace d'exposition qui se trouve directement connecté à l'espace de l'Office de tourisme. Donc, on est au premier et au deuxième étage. Et en fait, dans cet espace, on propose un certain nombre d'activités. Donc, on a une partie consacrée à l'exposition permanente qui parle de l'ensemble du territoire d'Amiens et des 38 communes autour, qui permet de comprendre comment fonctionne ce territoire, quelle est son histoire, quels sont ses paysages, quel est finalement son patrimoine aussi immatériel, les types d'architecture qu'on va y trouver. Et puis, en complément, on propose des expositions temporaires qui se trouvent dans un espace juste à côté, adjoint. Et puis on a aussi une salle pédagogique et un auditorium, ce qui nous permet aussi d'organiser des cycles de conférences.
Ok, super intéressant. Donc c'est très large, ça explique le patrimoine, l'architecture, etc. Donc,
ouais, qui est très riche sur le territoire. Donc on a vraiment la chance de travailler sur un territoire varié et qui recouvre vraiment des réalités très différentes.
Donc beaucoup de choses à découvrir effectivement. Nous aujourd'hui on a voulu t'inviter sur les ondes de Radio Campus Amiens à l'occasion de la nouvelle exposition temporaire du SIAP donc, qui s'appelle Reconstruire après 1940 et qui se déroule du 16 novembre 2024 au 18 mai 2025. Tout d'abord j'aimerais que tu nous parles de cette date. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé le 19 mai 1940?
C'est un peu un élément déclencheur finalement dans la ville contemporaine, dans le territoire contemporain, dans la mesure où c'est un incendie qui va durer plusieurs jours et qui va vraiment amputer la ville de la ville d'Amiens, en tout cas de 60% de son patrimoine construit, ce qui est vraiment considérable. Mais il y a aussi énormément de communes de la métropole, enfin quasiment toutes les communes de la métropole, sauf une en fait, sont touchées sur le territoire métropolitain, ça on le sait pas. Mais dans la campagne aussi, évidemment, hein, il y a des bombardements, il y a des dommages. Je pense notamment à la ville de Longo, qui est un nœud ferroviaire dans lequel on va venir bombarder en 44 notamment, mais donc le territoire est touché et c'est un moment décisif en réalité dans l'histoire d'Amiens Métropole.
Donc on part de cette destruction justement pour arriver à reconstruire. Donc est-ce que tu peux nous présenter l'exposition qui s'appelle justement Reconstruire après 1940?
Alors l'idée de cette exposition c'était de... Alors nous on s'adresse principalement au public local, aux habitants, c'est vraiment important pour nous. L'idée c'est de fournir des clés de lecture et puis des éléments qui permettent de comprendre pourquoi la ville a ce visage-là aujourd'hui. Et s'il y a bien une période particulièrement déterminante dans la ville contemporaine, eh bien c'est évidemment cette Seconde Guerre mondiale. Qui détruit en très grande partie le territoire et qui va se voir finalement, qui va voir un certain nombre d'acteurs entrer en scène. L'idée, c'est de relater dans cette exposition l'ampleur des destructions, la vie provisoire qui s'organise, parce que ça, on a un peu tendance à l'oublier dans l'interstice des grands récits historiques, mais en réalité, la vie provisoire s'organise, c'est-à-dire qu'on a des cités entières qui voient des baraquements s'organiser. D'ailleurs, il y en a encore quelques-uns en ville. Hein, quand on commence à avoir un peu l'œil aguerri, on en trouve un petit peu à droite à gauche. Moi, c'est devenu un peu mon obsession. Donc, j'en vois un petit peu à droite à gauche. Donc, comment est-ce que la ville s'organise? Qui sont les acteurs? Comment l'État s'approprie au fur et à mesure du temps, finalement, les enjeux et met en place un certain nombre d'outils? On va voir que c'est quand même un petit peu le système D, hein, jusqu'à ce qu'on décide finalement assez tôt dans l'histoire d'Amiens de choisir une personne pour pouvoir justement reconstruire et planifier cette reconstruction. Il y a vraiment un élan qui est celui de se dire eh ben, qu'est-ce qu'on fait de cette table rase? Et ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'on constate que finalement la ville d'Amiens est en réalité accuse un retard assez important en termes de confort, dans l'habitation notamment, en termes d'habitat. Donc c'est peut-être une belle opportunité au final. C'est vraiment le récit d'une résilience en fait, en réalité. C'est comment est-ce que de ce trauma qui est assez considérable, vécu dans l'intimité des foyers, finalement va être l'espace finalement d'un renouvellement et puis une belle opportunité de faire entrer la modernité dans les foyers.
Justement, tu nous parlais d'une personne, cette personne c'est Pierre Dufaux je suppose, qui a été l'architecte et l'urbaniste de ce chantier. Je voulais savoir aussi, qu'a-t-il voulu mettre en place pour la reconstruction d'Amiens précisément, lui ce...
Alors, c'est l'apparition d'une planification. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les documents d'urbanisme ont toujours existé. Pas du tout. Et en l'occurrence, c'est vraiment à ce moment-là que ça apparaît. Et donc, ce Pierre Dufaux, qui est relativement jeune, hein, il n'a même pas 40 ans quand il est choisi très tôt. Donc, on lance un concours dès 1940. Hein, c'est-à-dire que les dégâts sont tels que bah, l'État décide d'organiser un concours. Et c'est ce jeune architecte qui est choisi, qui n'a jamais reconstruit de territoire. Donc, c'est vraiment une expérience nouvelle pour lui. Et il va faire preuve de bon sens et il va vouloir organiser finalement la ville selon un certain nombre de principes importants, c'est-à-dire la modernité, c'est l'automobile, donc l'arrivée de l'automobile dans la ville. Donc on a vraiment une réflexion autour de ce que c'est que la voirie, c'est-à-dire que en fait on a à l'époque dans les années 39 admettons une voirie qui est suffisamment, enfin qui est aussi ample finalement qu'une ville de Lyon, donc c'est assez énorme. L'idée, c'est d'être davantage rationnel et de se dire que c'est une belle opportunité de réfléchir au dessin des rues, à rationaliser davantage finalement certains îlots qui vont être reconstruits. Et donc, y a vraiment une pensée qui est celle de ce qu'on appelle un remembrement. C'est souvent un terme que l'on utilise dans la campagne pour utiliser, comment est-ce qu'à un moment donné, les parcelles vont se regrouper pour être dans un parcellaire plus simple. Et bien là, on va faire la même chose en ville. C'est-à-dire que l'idée, c'est de regrouper des parcelles et puis de redessiner de manière beaucoup plus rationnelle la ville, de manière à ce qu'elle soit cohérente, un peu moins moyenâgeuse quand même. Donc, il y a vraiment cet élan-là. Il y a l'arrivée de l'automobile et puis il y a une volonté évidemment d'apporter l'eau, l'électricité, le gaz pour chacun, puisqu'Amiens accuse un recul important dans ce domaine.
Et aujourd'hui, les tracés qu'on voit sont encore les mêmes. Donc, c'est la même chose. On peut voir encore aujourd'hui le travail de Pierre Dufaux,
tout
finalement.
Tout à fait. Donc, il y a un premier élan qui est celui de se dire on va répondre à cet enjeu et à cet impératif. Donc, il y a une vision un peu rêvée de ce que peut être une ville sous l'influence du régime de Vichy, avec un vrai recours à l'histoire important. Et puis, finalement, il y a aussi le principe de réalité qui est celui de la pénurie de matériaux. Et comment est-ce que l'ingéniosité va être utilisée à ce moment-là? Comment est-ce que on va aussi, à cette même période, moderniser aussi la construction. On se trouve là dans le quartier d'Amiens Nord, un quartier de grand ensemble. Et finalement, en germe, c'est ce qui se passe un petit peu aussi dans le centre-ville. Hein. On passe à des échelles de construction différentes. La grue devient finalement le motif que l'on va retrouver un petit peu partout dans la ville. Parce qu'on parle quand même d'un paysage assez lunaire, hein, quand même, quand on voit l'iconographie et puis les images de l'époque. C'est assez traumatisant quand même à l'échelle de l'habitant de se retrouver sans rien, d'avoir perdu en effet ses proches et puis de se retrouver dans ce nouveau contexte-là.
D'ailleurs, on peut voir ça à l'exposition. Vous avez des grands panneaux avec des photos d'archives qui permettent vraiment de se mettre dans l'ambiance de reconstruire. On part de ça et on va aller vers justement tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Pendant le discours d'inauguration du 15 novembre, Hugo Massir, docteur en histoire de l'art et commissaire de l'exposition, a prononcé une phrase qui m'a semblé très intéressante. Il a dit avoir voulu réconcilier les Amiénois avec leur patrimoine. Peux-tu donc nous expliquer les objectifs de cette exposition pour les Amiénois? En quoi cette phrase, moi qui a vraiment résonné en moi, pourquoi elle est importante pour cette exposition et qu'est-ce que tu en penses aussi?
En tout cas, cette exposition, j'imagine en tout cas qu'elle contribue à révéler finalement la qualité de ce patrimoine reconstruit, en se rappelant le contexte qui est celui d'une contrainte, d'une pénurie, d'une nouveauté hein, quand même dans l'exercice de planification de la ville. Et comment est-ce qu'on trouve de la ressource? Comment est-ce que les habitants vont aussi se mobiliser? Comment cette entraide, cette solidarité va s'organiser pour pouvoir reconstruire la ville contemporaine? L'objectif, c'est évidemment de révéler ce patrimoine. La notion de patrimoine, il faut l'avoir au sens large. C'est le paysage, c'est le patrimoine bâti, mais on pense souvent monument historique, mais en réalité, c'est l'ensemble de la ville pour sa cohérence qui devrait être aussi valorisée à ce titre-là. Donc c'est peut-être l'ambition de l'exposition, c'est aussi une volonté de faire lever le nez, finalement, des habitants, c'est-à-dire sur ce patrimoine-là, puisque souvent on dit patrimoine de la reconstruction, c'est forcément du béton. Et en réalité, quand on regarde dans les détails, on le voit que dans des espaces vraiment désintéressants, interstices très précis. Certes, il y a le béton, mais qui offre une vraie facilité dans la préfabrication, etc., qui est une vraie opportunité. Et donc, du coup, l'idée, c'est de nuancer peut-être un peu cette vision qu'on a assez binaire, ne serait-ce que déjà d'arriver à identifier précisément quel est le patrimoine de cette période, et puis de voir en quoi, aujourd'hui, il contribue largement à la ville contemporaine et à son identité telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Notamment dans l'exposition, il y a aussi des sculptures, des bas-reliefs, ouais. Qui justement vont contre l'idée de la reconstruction, c'est que du béton, etc. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir des photos in situ et de pouvoir les remarquer maintenant dans la ville d'Amiens. Je trouve ça vraiment super intéressant. Cet événement aussi permet de mettre à l'honneur un célèbre architecte qui est bien connu des Amiénois, Auguste Perret. À l'aide de maquettes, de plans de construction, le visiteur a l'occasion de connaître l'histoire de la tour Perret. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus.
Alors Auguste Perret, c'est vraiment à l'époque quelqu'un qui est reconnu, à qui on fait confiance, et finalement son projet de tour pour le quartier de la gare, qui est l'entrée de ville, finalement il revendique cette idée d'avoir un nouveau beffroi contemporain, le premier gratte-ciel d'Europe, hein, il faut le dire. Et c'est un vrai tour de force, parce qu'évidemment, techniquement, il s'agit de creuser vraiment en profondeur des fondations, et il s'agit d'élever quand même une tour assez impressionnante qui ne va pas jusqu'à la flèche de la cathédrale, bien sûr, mais en tout cas, il y a une vraie volonté d'afficher cette capacité de la ville à renaître un peu de ses cendres. Donc c'est vraiment la figure d'Auguste Perret, hein, qui est identifié, choisi pour relever ce défi. Et puis c'est vraiment une tour qui fait polémique et qui est vraiment l'endroit à la fois d'un rejet aussi de la part de la population, et puis qui va faire aussi l'objet d'un certain nombre de polémiques, hein, parce qu'elle coûte cher, elle n'a pas de vocation, et ça c'est assez incroyable quand même que pour cette époque-là on accepte ça. Et c'est dire finalement, la notoriété de ce personnage-là à l'époque. Mais c'est aussi intéressant pour nous de revenir un petit peu sur cet épisode-là, donc de le contextualiser, mais puis aussi d'expliquer à quel point cette architecture, elle est identitaire sur le territoire, c'est important, mais aussi de voir à quel point cette architecture, elle n'est pas non plus très emblématique de ce qu'on va trouver partout dans le centre-ville, par exemple. Donc c'est un petit peu une exception, une porte d'entrée, l'affirmation d'un matériau, le béton, qui est affiché comme un étendard de la modernité, une pierre artificielle à laquelle on va donner un certain nombre de lettres de noblesse avec des savoir-faire. Et c'est peut-être en tout cas l'occasion pour nous de dire à quel point cette architecture est particulièrement qualitative, elle correspond encore aujourd'hui nos critères de confort, et que ce quartier, en tout cas, il est vraiment intéressant et assez classique, en fait, au final, parce qu'on se dit, oh là là, c'est moderne, etc., on recouvre pas le béton, en effet, mais en réalité, on constate qu'on a des colonnes. Quand on va un petit peu plus du côté du cinéma Gaumont, là, on a des détails avec des colonnes qui sont clairement un emprunt à l'imaginaire antique, en tout cas, de ce qu'on peut se figurer de l'architecture antique. Et puis, on va avoir des fenêtres qui sont bien verticales, alors qu'à l'époque, on est quand même plutôt sur des fenêtres bandeaux à la Le Corbusier. Donc, il est avant-gardiste sur un certain nombre de choses, mais c'est à la fin de sa carrière qu'Auguste Perret dessine, finalement, juste avant, d'ailleurs, d'engager le chantier du Havre.
Tout à fait, du Havre. Voilà. Ok, et ben, comme on peut le voir, c'est super intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et vous pouvez aller voir cette exposition du 16 novembre 2024 au 18 mai 2025. Mais aussi, pour compléter l'exposition, le SIAP vous propose différents parcours urbains qui sont entre 1h15 et 1h30, notamment sur l'œuvre de Pierre Dufaux, on a parlé un peu plus tôt, le dimanche 24 novembre et le samedi 15 février. Et ensuite, une visite de l'exposition et une visite du quartier de la gare, surtout, le dimanche 9 février, le samedi 22 février et une dernière date, le 29 mars. Toutes les informations sur les différentes activités et temps forts sont à retrouver sur le site amiens.fr/siap. Merci beaucoup, Claire, d'avoir répondu présent pour répondre à mes questions. Et encore une fois... c'est très intéressant de découvrir Amiens sous ce jour-là et avec cette exposition.
Merci à vous.
Eh bien, merci Aline pour cette interview. Merci à vous, Claire. Comme depuis maintenant une semaine, on vous propose une série de chroniques réalisées par le réseau des radios associatives, la FRANF. C'est autour du Festival Solidarité dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, on vous propose de rencontrer le collectif de Boulogne-sur-Mer.
Le Festival des Solidarités aura lieu du 15 novembre au 1er décembre sur toute la région avec un slogan « Transformons notre monde ». Et pour en savoir plus sur leurs événements et leur engagement, nos équipes sont allées rencontrer les actrices et acteurs de ces collectifs des Hauts-de-France.
Je suis Maxime Couvout, je suis chargé de communication pour le CDSI et notamment en renfort pour le Festival des Solidarités pour organiser toute la communication, les affiches et la diffusion de toute la programmation.
Alors Maxime, est-ce que vous pouvez nous présenter le CDSI ?
Alors le CDSI déjà, c'est le Centre de Ressources et d'Animation pour le Développement et la Solidarité Internationale. C'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans déjà par Francine Wallard qui est toujours présidente et qui est toujours active dans l'association. Elle est composée également, cette association, de Chloé Tétard, qui coordonne les projets de l'association et qui est là au quotidien, justement, pour mener toutes les animations que l'on fait tout au long de l'année, des interventions dans les établissements scolaires, notamment via Octobre Engagé, qui est en train de se terminer, où on débat avec des jeunes sur des thématiques comme l'égalité femmes-hommes, la discrimination et d'autres activités que l'on peut faire tout au long de l'année.
Alors, depuis combien de temps êtes-vous engagé dans l'organisation du Festival des Solidarités ?
Déjà, le Festival des Solidarités existe depuis 27 ans. C'est la 27e édition. Déjà, bien avant la première édition, le CDSI organisait des semaines thématiques sur la solidarité. Nous, on a lancé pour cette année la programmation au mois de septembre, en démarchant des partenaires, des centres sociaux, des associations partenaires pour justement proposer des événements, des animations et des ateliers thématiques autour de la solidarité internationale.
Quelles seront les thématiques d'ailleurs choisies cette année ?
Alors la particularité de ce festival de cette année, c'est que la première semaine sera consacrée à la thématique « Nos pays, nos cultures ». Donc, pour cela, on a rencontré de nouveaux intervenants qui vont nous présenter la culture de leur pays au travers de lectures, de cuisine, de mouvements culturels propres à leur pays et qui font leur renommée.
Quels sont les événements prévus pour cette nouvelle édition du festival, les temps forts ?
Le premier temps fort aura lieu le vendredi 15 novembre au Carré Sam, place d'Argentine, à Boulogne-sur-Mer. C'est la soirée d'inauguration du festival, où l'association d'Enfée, Mariam et Mohamed, qui sont deux artistes, vont nous proposer une performance artistique et musicale accompagnée des associations organisatrices qui présenteront elles-mêmes la place qu'elles prendront durant cette quinzaine.
Alors, bien sûr, c'est vous qui coordonnez ces actions, mais pour mettre en place ces actions, vous avez bien sûr des partenaires. Qui sont-ils ?
On a des partenaires comme les centres sociaux du Boulonnais, des associations locales, et on a également des partenaires financiers qui nous soutiennent justement pour ce festival et tout au long de l'année.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de partenaires justement associatifs qui se sont engagés auprès de vous dans ces actions ?
L'un des premiers, par exemple, le Centre social et culturel Jacques Brel à Outreau, qui va proposer le samedi 16 novembre toute une animation l'après-midi autour de l'Ukraine, donc via l'association Vilna Ukrainia, qui proposera une exposition, des chants, de la lecture et une dégustation de plats ukrainiens.
À chaque édition, vous vous ouvrez à l'international, hein, vous venez d'en parler en invitant des partenaires. Qui avez-vous invité cette année ?
Alors, le fait que la première semaine soit dédiée à nos pays, nos cultures, on a voulu ouvrir un champ plus vaste. Donc, on aura l'Ukraine, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'Ouzbékistan, avec une association qui va nous faire découvrir la cuisine ouzbèque et sa culture, mais aussi une association géorgienne qui va nous proposer une conférence en ligne et qui nous permettra de découvrir l'un des poètes les plus célèbres de la Géorgie autour d'un de ses poèmes qui sera traduit et interprété, suivi d'un échange.
Quelles valeurs ou convictions souhaitez-vous transmettre par le biais de vos actions ?
Il y a beaucoup de valeurs cette année, étant donné qu'on a deux thématiques, nos pays, nos cultures et le Festival des Solidarités la deuxième semaine. C'est découvrir le monde, découvrir comment on est citoyen du monde, comment on peut être solidaire et comment on peut voir un peu plus sereinement la culture via des personnes qui vont nous présenter tout ça.
Où peut-on retrouver le programme de cette nouvelle édition ?
On peut le retrouver sur le site officiel du Festival des Solidarités. On peut le retrouver également sur notre Facebook, sur notre Instagram aussi qui vient d'être créé. Et on peut le retrouver aussi dans les centres sociaux du Boulonnais, les mairies et les commerces locaux. Il faut savoir qu'on a des événements qui seront assez grand public, comme par exemple une projection débat qui sera proposée le mercredi 27 novembre au Multiplex Megarama. On diffusera le documentaire Dahomé de Mati Diop et ça sera suivi d'un échange et d'un moment de convivialité. Le CDC proposera aussi un nouveau jeu qu'on a acquis il y a très peu de temps, comme le jeu Climat Tension, qui va permettre de comprendre les causes et conséquences des dérèglements climatiques et découvrir des alternatives en faveur du climat. Donc n'hésitez pas encore une fois à consulter notre programmation et on sera ravis de vous recevoir et d'échanger avec vous.
Le programme complet de cette 27e édition est à retrouver sur le site internet www.festivaldessolidarités.org et sur la page Facebook Festival des Solidarités.
Une chronique réalisée par la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France et Liane Coopération.
C'était une chronique réalisée dans le cadre du festival Solidarité. Bon, avant de se quitter, j'ai une dernière information à vous donner. Ce 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors le CIDFF de la Somme organise 3 soirées de sensibilisation avec un ciné-débat autour du film L'amour et les forêts, inspiré du roman d'Éric Reynard. Ce drame, il raconte l'histoire de Blanche, une femme séduite par Grégoire, qu'elle pense être l'homme idéal. Rapidement, elle s'éloigne de ses proches et tombe sous l'emprise de cet homme possessif et dangereux. Il y a donc 3 projections qui sont organisées et suivies d'un débat. Le jeudi 21 novembre à 20h à la salle Esmeralda à Haï-le-Clocher. Le Haut-Clocher, pardon. Le 22 novembre à 20h à l'amphithéâtre Cavaillès à Amiens et le samedi 23 novembre à 17h à la médiathèque Le Zèbre à Bray-sur-Somme. Pour s'inscrire, c'est facile, c'est en ligne, c'est directement sur les sites internet des lieux de diffusion, mais de toute façon, on vous mettra les liens dans l'article de l'émission. Bon, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich. Comment tu te sens, Aline, pour ce premier direct ?
Ça va, je trouve que ça a été. J'ai un peu bégayé, mais ça a été quand même.
Tu t'en es bien sortie. Pour terminer l'émission, tu as choisi « Don't you think it's be nice » du groupe Papouze, que tu as vu en concert la semaine dernière.
Ouais, c'était vraiment trop bien. Je connaissais un peu pour la partie folk et j'ai découvert que c'était vraiment un groupe qui groovait de fou et j'ai mis celle que j'ai préférée.
Eh bien, on s'écoute ça et tout de suite après, vous retrouverez le troisième épisode de On Débobine, c'est pas encore le dernier, l'émission quotidienne sur le FIFAM qui vous réserve quelques surprises. À demain sur les ondes. My heart.